France Inter.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Qu'ils volent, qu'ils rampent ou qu'ils courent, ils sont souvent des colocataires qui nous dérangent. Qu'il s'agisse d'une guêpe qui s'invite à table, d'un bourdon qui fait son nid sur la charpente ou d'une tribu de fourmis qui colonise la cuisine. Sans parler du DJ de notre été, le fameux moustique, les insectes sont rarement les bienvenus chez nous. Mais les connaît-on vraiment? Savez-vous par exemple que les araignées ne sont pas des insectes, que les cloportes sont des crustacés et que les frelons sont des guêpes? Une chose est sûre, les insectes ont un rôle fondamental dans l'écosystème. Sans eux, bon nombre d'animaux seraient privés de nourriture et très égoïstement, nous, humains, serions privés des fruits et des fleurs qui égayent nos jardins en cette saison. Nos invités du jour, trois passionnés par cette espèce, vont à coup sûr changer notre regard sur nos voisins à six pattes qui méritent, à l'instar des chiens et des chats, notre empathie. Vous qui nous écoutez, aimez-vous les insectes un peu, beaucoup, pas du tout? On attend vos messages au 01 45 24 7000. Nous sommes le jeudi 31 juillet. Grand Bien vous fasse, en direct tout l'été pour vous accompagner.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Yasmine Ouglis.
Ouah, bah, t'as entendu ça? C'est strange, non? Ouah, c'est une mouche? Mais non. Ah si, putain, c'est une mouche.
Pourquoi on ne sert pas de la mouche là pour se faire de l'oseille?
Bon, on l'adresse comme un singe.
On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque et nous on fait rien.
On l'apprivoise.
Alors, un extrait du film Mandibule de Quentin Dupieux, vous avez sûrement, vous le savez, Quentin Dupieux, c'est un peu le roi au royaume de l'absurde. Alors, il imaginait dans ce film une histoire farfelue d'une mouche géante découverte dans le coffre d'une voiture par deux amis pour le moins originaux. Et l'étonnement va laisser place à un lien qui va se créer quand même, et c'est ce qu'on va essayer de faire nous ce matin, créer un lien avec ces insectes qu'on ne connaît pas assez. Dans le studio de Grand Bien vous fasse ce matin, trois spécialistes qui ne demandent qu'à vous les faire aimer. Bonjour François Lasserre.
Bonjour Yasmine.
Vous êtes entomologiste, vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement, auteur de facettes fascinantes de Belles Bêtes, édité chez Belin. Bonjour Mathieu Liorot.
Bonjour.
Vous êtes éthologue au CNRS, expert de l'intelligence animale et en particulier de celle des insectes, auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation sur les insectes, dont La planète des insectes, chronique sauvage aux éditions Tana. Bonjour Léna.
Bonjour.
Alors vous êtes Léna, mais vous êtes une scarabette sur les réseaux sociaux, vous êtes entomologiste. Et les adeptes de YouTube, d'Instagram et de TikTok vous connaissent donc peut-être sous le nom de Scarabette, un compte que vous avez créé pour partager votre passion des insectes, c'est bien ça?
Exactement.
Alors vous avez tous les trois ce point commun d'être passionnés par ces petites bêtes qui, je l'ai dit tout à l'heure, ne font pas l'unanimité chez les humains, qui ne font pas spécialement l'effort de s'y intéresser, on est bien d'accord. Pour commencer, François Lasserre, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette fonction d'entomologiste que je viens d'évoquer?
Spécialiste des insectes. Alors après, il y a mille façons d'être entomologiste. Mm-hmm. Il y a des entomologistes qui ont des thèses, comme Mathieu, je le crois, et qui sont dans des laboratoires, qui recherchent toute la journée. D'autres qui font des animations nature, ou comme Scarabette, qui font de la vulgarisation. Il y a mille façons de l'être. Mais sinon, entomologiste, c'est spécialiste des insectes. Donc en théorie, c'est des scientifiques qui font des recherches sur les insectes, sur le terrain ou dans les laboratoires.
Alors là, c'est entomologiste, mais je vais aussi parler d'éthologue. Donc vous, Mathieu Liorot, vous êtes éthologue et entomologiste?
C'est ça. Donc l'entomologue, comme ça a été dit, c'est la personne qui s'intéresse aux insectes, qui l'étudie. Et moi, je suis éthologue de surplus, c'est-à-dire que j'étudie le comportement des insectes.
C'est une nuance, c'est ça?
C'est une niche, oui, c'est une nuance.
En tout cas, ça méritait d'être précisé, parce que franchement, c'est deux fonctions que je découvre. Alors, je l'ai dit, François Lasserre, vous êtes vice-président de l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement. Quelles sont les missions de cette association?
Alors, c'est une toute jeune association qui existe depuis 1969. Mmh. Mais en fait, 69, dans la protection de la nature, c'est très récent, parce que la LPO, par exemple, la Ligue pour la protection des oiseaux, a plus de 100 ans. Mmh. Mais on s'est intéressé aux insectes que récemment. Et l'OPI fait des études sur le terrain, pour savoir ce qui se passe, ainsi comment sont les insectes dans ces environnements, s'ils sont en bonne santé, on dit, les espèces sont en bonne santé, ou si elles sont en voie de disparition ou non, comment on qualifie les milieux, disons, en disant, tiens, en fonction des insectes qu'on va trouver dans les environnements, on sait si les environnements sont sont en bonne santé, comme on dit. Et il y a aussi beaucoup de sensibilisation. On a une revue qui s'appelle la revue Insectes. On reçoit beaucoup de monde dans la maison des insectes à Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines. On fait ça depuis très longtemps. La vocation pédagogique de l'OPI est très très forte, en plus de ses études entomologiques sur le terrain.
Alors vous dites, on s'est intéressé aux insectes il y a peu de temps. Vous, votre passion pour les insectes, si je ne me trompe pas, elle vient de votre goût pour l'originalité. Expliquez-nous.
Alors, en partie, c'est vrai. C'est vrai que pour s'intéresser aux insectes dans une culture très entomophobe et arachnophobe, on n'aime pas les araignées, ben c'est vrai qu'il faut.
Ce que j'ai dit était juste. On est d'accord. Hein, les arachnées, les araignées ne sont pas des insectes.
Ah, pas du tout. Bon, pas voilà. D'ailes, pas d'antennes, trop de pattes, vraiment rien à voir.
Ah, on va détailler ça tout à l'heure.
Rien à voir. Et c'est vrai que on est un peu encore entomophobe, insectophobe, et donc apprécier les insectes va être un peu décalé. Je ne sais pas ce que diront Léna et Mathieu. Et puis, il y a autre chose qui est important, c'est de ne pas en avoir peur. Ça, c'est vraiment important, parce que pour s'intéresser aux insectes, comme tout le monde en a peur et tout le monde va nous dire des choses négatives sur les insectes, et ça, j'en parlerai, c'est important d'essayer de dire des choses positives plutôt sur ces animaux, ces petits animaux, parce qu'il y a finalement, il y en a très peu qui nous embêtent. Et bien, ne pas en avoir peur, ça permet aussi de s'y intéresser. J'aime bien les choses qui ne sont pas, qui sont un peu originales, et surtout, j'ai une grande passion pour les autres, qu'ils soient humains ou non. Vraiment, j'adore rencontrer d'autres personnes, qu'elles soient humaines ou non, d'autres cultures, et aller à la rencontre des autres animaux, c'était vraiment quelque chose qui continue à m'animer, qui me passionne. Et les insectes sont parmi les premiers animaux, les premières cultures qu'on peut rencontrer très facilement. Elles sont là à portée de main. Parce que quand vous vous intéressez aux mammifères, c'est pas facile. Il faut faire des affûts pendant très longtemps. Les oiseaux, on y arrive quand même avec des jumelles, mais on est rarement en contact. Alors que les insectes, c'est
là, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de se déplacer beaucoup pour avoir des insectes à proximité. Alors, Scarabette, vous êtes d'accord que je vous appelle Scarabette,
qui est oui, votre... c'est très bien.
D'accord, on va faire ça. Scarabette, comment vous, vous êtes passionnée pour les insectes ?
Alors, moi, j'ai eu la chance d'être dans une école un peu type Montessori. Et de par mes cours de sciences où on allait dehors et on allait au contact de la nature, j'avais un professeur qui était génial. Je me souviens de lui avoir ramené des gendarmes et lui avoir dit « Mais qu'est-ce que c'est ? C'est plein de couleurs, qu'est-ce que c'est ?» Il m'a appris plein de choses sur eux. Et il y a eu un peu ce rituel où ben, moi, j'étais celle qui lui ramenait les petits insectes, les petites bêtes que les autres ne trouvaient pas forcément très, très ragoûtants. Et ce lien s'est créé comme ça. Et au fur et à mesure, je me suis intéressée de toute façon à tous les animaux et à la nature en règle générale. Et c'est les insectes qui ont conquéri mon cœur et qui continuent encore à le faire.
En fait, vous avez eu la chance d'avoir un prof. Ça nous arrive tous d'avoir un prof qui a changé notre vie, je pense. Mais lui... En étant petite, vous aviez cette curiosité qu'ont souvent les enfants par rapport aux insectes, on est bien d'accord. Vous, Mathieu Lioreau, cette passion, elle vous est venue comment ?
Elle est venue très tard et par hasard. Donc, quand j'étais enfant, moi, j'avais plutôt tendance à jouer avec les fourmis et parfois à les écraser, ce que je ne fais plus, bien sûr. Par contre, voilà, je me suis à l'université, je me suis engagé dans des longues études pour devenir éthologue, pour étudier le comportement animal. J'étais vraiment passionné par les animaux, mais je me rêvais plus travailler sur les orangs-outans à Bornéo ou dans le Pacifique sur les baleines bleues. Seulement, mon professeur en licence à l'époque m'a proposé un stage d'éthologie et j'ai pas vraiment eu le choix, donc j'ai accepté et il s'avérait qu'il travaillait sur les fourmis. Alors j'ai eu une petite déception quelques jours. Et puis, au bout d'une semaine, j'étais complètement fasciné.
Ah, vous étiez déçu qu'ils vous proposent des fourmis ?
Bah oui, tout à fait. Je rêvais de plus gros animaux et d'exotisme. Donc, j'ai travaillé sur ces fourmis au laboratoire, dans des petites boîtes en plastique. Et au bout de quelques jours, j'étais complètement fasciné et je n'ai pas du tout lâché le monde des fourmis. Comme ça a été dit tout à l'heure, les insectes, c'est un univers qui est à notre portée.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez un insecte de prédilection ?
Alors moi, en tant que scientifique, je me suis spécialisé de plus en plus et j'ai un insecte modèle, donc une espèce sur laquelle je travaille énormément, tous les jours, c'est le bourdon commun, le bourdon terrestre. Donc le bourdon terrestre, c'est une abeille, fait partie de la grande famille des abeilles, on a 20 000 espèces d'abeilles sur Terre. Et ces bourdons terrestres, ce sont les grosses abeilles qu'on peut voir assez facilement en France, dans les jardins, qui butinent, ce sont des abeilles sociales.
Vous avez encore des choses à apprendre sur les bourdons ?
Ah oui, énormément. J'en sais beaucoup moins que ce que je pourrais savoir à la fin de ma vie.
Cette phrase, c'est un peu une hérésie, parce que c'est comme si je vous demandais si on avait encore des choses à apprendre sur l'homme. Voilà, on n'a jamais fini d'apprendre, je pense. François Lasserre, est-ce qu'on pourrait parler, parce que je l'ai dit, on a introduit
reproduction, ces insectes, on a une appréhension parfois. Parfois, j'ai lu un chiffre de l'Ipsos qui dit que 7 Français sur 10 ressentiraient même du dégoût envers les insectes. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'une insectophobie, phobie culturelle ?
Oui, très largement dans notre culture, oui. Il y a d'autres pays où c'est très différent. Si vous étiez né dans un autre pays, par exemple les araignées, alors qui ne sont pas des insectes, mais des petites bêtes quand même, ne serait pas un sujet. Vous voyez, il y a des pays, il y a une grosse araignée au plafond, tout le monde s'en moque, alors que nous, ça va être un vrai sujet. Alors ce qui est vrai, c'est que à partir de quelques espèces, on a vraiment aseptisé nos environnements en France. On a aussi une culture très jardin à la française, donc on a un peu aseptisé tous nos environnements. On n'a pas tellement envie de cohabiter avec les non-humains. Et les rares qui peuvent venir jusque sur nos déchets ou nous piquer parfois sont des insectes. Et c'est vrai qu'à partir d'anecdotes, d'individus, de quelques espèces et des individus au sein de ces espèces, on se fait une image un peu déplorable des insectes. Alors que quand on creuse, comme l'a dit Mathieu, dès qu'on rentre, qu'on met une loupe dans le monde des insectes, c'est complètement infini et l'immense majorité des insectes ne nous en veulent pas. Donc c'est vrai qu'il y a quelques petits individus qui peuvent nous embêter parfois, mais si on arrive à dépasser ça et être un peu plus curieux, on se rend compte que c'est un univers absolument incroyable et passionnant.
Pourquoi est-ce qu'on en a souvent peur ?
Alors parce que certains, comme par exemple la guêpe, c'est vrai, peuvent nous piquer parfois. Et vous voyez, je mets le conditionnel parce que c'est très très rare de se faire piquer par des guêpes. Infiniment rare. Et certains peuvent venir nous sucer le sang comme les moustiques. Mais c'est vrai que du coup, à partir de ces exemplaires et de cette méconnaissance et du fait qu'on ne les côtoie plus jamais, dès qu'ils s'approchent, on a l'impression qu'ils vont nous piquer ou nous mordre. Voilà. Je reçois toute l'année des photos d'insectes en disant est-ce que ça pique, est-ce que ça mord ? C'est jamais, est-ce que c'est sympa, est-ce que c'est joli ? Jamais, jamais.
Ouais, c'est toujours par le négatif. On va rentrer dans le détail tout à l'heure de ces piqûres ou pas et de la dangerosité des insectes, en fait. Mais est-ce que les médias jouent pas un rôle dans cette peur qu'on a des insectes ?
Alors, c'est un peu les trains qui arrivent en retard. C'est vrai qu'on aime bien jouer sur nos biais, nos biais de négativité. On est un peu stressé. Et on va surtout faire d'anecdotes des généralités. Ça, c'est vraiment très fort dans notre esprit. Donc, si une guêpe nous a piqué une fois, on va penser que toutes les guêpes nous piquent. Ce qui est complètement faux. Mais du coup, dès qu'une guêpe approche, on est stressé. Alors, on a un peu raison, parce qu'elle pourrait le faire. Mm-hmm. Mais si on ne la coince pas, quand elle est loin du nid, elle est complètement inoffensive. Que ce soit une guêpe, un frelon, un bourdon, une abeille, etc.
C'est très très important que vous nous disiez tout ça et qu'on recueille ces informations, qu'on les accueille en tout cas. Vous, Scarabette, vous imaginez des vidéos pour changer le regard justement sur les insectes. Et je peux vous dire que quand on vous écoute, on a envie d'adopter un Symbex femoratus.
Ah, c'est pas une chenille. Et c'est pas un Pokémon non plus. Et je peux vous dire que cette petite bête trop mignonne, elle va pas le rester longtemps. C'est ce qu'on appelle une fausse chenille. Elle va pas donner un beau papillon, mais plutôt ça. Un frelon noir à échancrure. Alors, le nom fait peur, mais ok, c'est un insecte proche des guêpes, sauf qu'il est complètement solitaire et surtout, il a pas de dard. Il est complètement inoffensif. Donc, on dirait un gros machin méchant, mais en fait non. En fait, il fait le gros dur, mais c'est surtout pour que les prédateurs le laissent tranquille. Et en plus, il va se nourrir de fleurs de nectar, donc en fait, c'est un pollinisateur.
Vous mettez tout votre cœur, voilà, à nous les faire rêver, ces petites bêtes. Quelle est l'idée reçue la plus tenace sur les insectes, d'après vous, Scarabette ?
Que c'est dangereux, que c'est sale et que ça pique.
Grand bien vous fasse. Yasmine Ouglis sur France Inter.
Si nous ne faisons pas naturellement preuve d'empathie envers les insectes, c'est avant tout parce qu'on ne les connaît pas. Ça tombe bien. Ce matin, je suis avec trois spécialistes, Scarabette, François Lasserre et Mathieu Liorot. François Lasserre, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, moi là, en fait, ce que je veux, c'est vraiment qu'on en sache plus sur les insectes de manière, je dirais, anatomique, très détaillée. Je l'ai dit tout à l'heure, donc ils ont un point commun, ils ont 6 pattes.
Oui.
Ok. Mais à part ça, qui sont les insectes ?
Alors déjà, j'aime bien rappeler que ce sont des animaux, des petits animaux, non humains. Et donc déjà, mettre le mot animaux, vous voyez, c'est un animal qui s'approche de vous. C'est pas un insecte.
Je suis tout à fait d'accord. Déjà, quand on dit animal, on a plus d'empathie, c'est plus positif. Je suis d'accord.
Voilà. Et du coup, il suffit d'une simple loupe de bureau. Une guêpe s'approche, comme elle est inoffensive maintenant, vous le savez, elle s'approche. Vous prenez une loupe, vous allez voir que c'est un petit animal qui a ses pattes, qui se nettoie, qui bouge, qui regarde à droite à gauche, qui goûte avec sa bouche, qui touche avec ses antennes pour sentir un peu, et qui a des ailes souvent, parce qu'en plus d'avoir six pattes, la plupart des insectes, quand ils sont adultes, ont des ailes. Et ça, c'est assez particulier aux insectes. Parmi toutes les petites bêtes qui vivent autour de nous, toutes les petites bêtes qui ont des petites pattes, par exemple les araignées ne volent jamais, les cloportes ne volent jamais, les écrevisses ne volent jamais, c'est pourtant des cousines des insectes, par exemple. Donc c'est vraiment ça, une particularité des insectes, même si des insectes n'ont pas d'ailes ou n'en ont plus au cours de l'évolution, elles sont parties.
Depuis quand ils existent sur Terre ?
400, alors là, je me tourne vers Mathieu, mais 450 millions d'années environ ?
Oui, c'est à peu près ça. Donc, il n'y a pas de certitude, mais les premiers fossiles dans l'ambre, c'est cette époque-là.
Et on a identifié l'espèce ? Alors, je me reprends, parce que tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai dit cette espèce en parlant des insectes, alors qu'en fait, il y a plein d'espèces, c'est ça ?
Oui, en fait, c'est la majorité des animaux sur Terre. Donc, il y a au moins 1 500 000 espèces décrites, et il y en a certainement beaucoup plus. Donc c'est le plus grand nombre d'habitants sur Terre en termes d'espèces, de nombre d'individus et de biomasse.
Donc si Mathieu dit si, emploi le conditionnel, c'est qu'on n'a pas été au bout, on ne sait pas en fait, François Lazare.
Ben, en fait, ce que dit Mathieu, il y a 1 ou 1,5 million d'espèces identifiées et on en soupçonne 2, 3, 5, 8 millions. Certaines personnes disent des dizaines de millions. En fait, on ne sait pas du tout qui sont les insectes qui vivent sur Terre. On a une petite idée de tous les autres animaux aussi, parce qu'il y a très peu d'arachnologues qui s'intéressent aux petits acariens de la forêt tropicale et il y a peut-être encore plein d'espèces à découvrir. Enfin, il y a encore plein d'espèces à découvrir. On est très loin de... D'ailleurs, saura-t-on un jour combien il y a d'espèces avant notre disparition ? On ne sait pas.
Mais c'est plutôt ça qui est bien, c'est qu'on ne sait pas, justement, et on va accepter qu'on ne sait pas. Vincent Liureau, vous l'avez dit tout à l'heure, votre insecte de prédilection, c'est le bourdon. Alors, moi, j'ai une question quand même assez claire et technique. Les guêpes, les abeilles, les frelons et les moustiques, selon moi, ont un point commun. Et dans le sens commun, c'est celui-là, c'est qu'ils peuvent nous piquer. Hein ? Ils peuvent nous piquer. Ils en ont la possibilité. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous nous disiez pourquoi ils nous piquent.
Alors exactement, donc vous avez cité 4 exemples. Il y a 3 exemples qui se rapprochent. Donc il y avait les bourdons, les guêpes et les frelons.
Ah, j'ai pas cité le bourdon. J'ai dit les guêpes, les abeilles, les frelons, les moustiques. J'ai oublié le bourdon.
Ah bon, on va parler des abeilles, des guêpes et des bourdons. Donc ça, c'est le même groupe. C'est le groupe des hyménoptères. Il y a aussi les fourmis à l'intérieur de ce groupe. Mm-hmm. Et ces insectes-là, ils piquent uniquement pour se défendre. Et pas pour se défendre individuellement forcément. Ils veulent défendre leur reine.
Donc, ils veulent défendre leur reine, ils veulent protéger.
Donc, ils veulent protéger leur reine. Donc ces animaux-là, ils piquent uniquement quand on est proche de la reine, donc proche du nid. Ou alors quand on marche dessus de manière inconsciente. Donc c'est très rare de se faire piquer par une guêpe, un bourdon ou un frelon. Par contre, les moustiques, ils vont piquer pour autre chose. Ils vont piquer pour se reproduire. Donc les femelles moustiques vont sucer du sang sur des humains, sur d'autres autres mammifères, pour pouvoir produire des œufs et se reproduire. Donc c'est deux fonctions différentes. On a beaucoup plus de chances de se faire piquer par un moustique que par tous les autres insectes qu'on a cités.
Ça, c'est ce à quoi on pense, on est assez nombreux à penser à ça en premier quand on pense à ces insectes-là. Pour le côté positif, j'ai lu qu'une étude australienne démontre que le venin d'abeille pourrait soigner un cancer agressif. Est-ce que vous confirmez ?
Oui, donc ça fait quelques temps maintenant qu'on sait que les venins d'abeilles possèdent des enzymes et des protéines qui peuvent détruire des cellules, et notamment des cellules cancéreuses. Donc ça fait des dizaines d'années qu'on connaît ce résultat. Et récemment, il y a eu des études plus détaillées qui décrivent les mécanismes moléculaires de cette action du venin. Ce qui suggère que dans un futur proche, on pourra utiliser le venin de manière maîtrisée, en combinaison avec les thérapies plus classiques, pour être plus efficace.
C'est fascinant. François Lasserre, est-ce que vous pouvez nous dire où vivent les insectes ?
Partout. Partout, je rigole parce que c'est vrai que quand on s'intéresse à ces animaux, on se rend compte qu'en fait il y a des millions d'espèces et qu'ils vivent absolument partout, jusqu'au Groenland. On ne peut même pas échapper aux insectes quasiment. Alors, plus il y a de neige et plus il y a de froid, moins il y en a. Et plus il y a de mer, moins il y en a. La mer, il y en a très peu. Il y en a quelques-uns qui vivent dans l'eau salée, mais très peu. C'est plutôt leur cousin, les crustacés. Mais sinon, ils sont absolument partout. Plus il fait chaud, plus il y a de la nourriture, plus il y en a, sous les tropiques par exemple. Mais des insectes sont absolument partout. Et souvent, ils sont spécifiques à la région. Ils ont évolué en fonction de leur région. Mais il y en a vraiment absolument partout.
Alors moi j'ai plein de questions qui me viennent hein, sur les insectes et leur anatomie et sur leur capacité. La première là déjà c'est est-ce qu'ils entendent ?
Oui, alors pas tous de façon parfaite, disons. Au moins, certains ont des soies sensorielles qui leur permettent de sentir les vibrations, mais certains ont quand même des oreilles. On parle d'organes tympaniques, notamment ceux qui communiquent avec des sons. Là, je suis en train de communiquer avec un son, vous avez des oreilles pour l'entendre, et des sauterelles, des mouches, des grillons, des punaises sous l'eau, peu importe, il y en a plein qui stridulent, enfin, qui font des chants, les cigales par exemple, et donc elles stridulent, mais il faut bien que l'autre l'entende, et donc ils ont des oreilles. Alors les sauterelles peuvent avoir l'oreille sur la patte avant, l'organe tympanique sur la patte avant, parfois chez des mouches c'est sur le thorax, sur le...
Excusez-moi, hein, mais c'est fascinant, sur la patte avant.
Ah, c'est la vie normale. Alors, je pensais qu'on faisait juste une révision, ça c'est vraiment la...
Non, en ce qui me concerne, là je découvre plein de choses et vraiment je trouve ça extraordinaire. Là vous avez parlé de ces bruits, vous avez cité ces insectes, alors je vous propose, vous qui nous écoutez, allez, on ferme les yeux. On écoute un extrait du documentaire « Des insectes et des hommes » de France Culture, diffusé en 2020.
Quand on parle d'insectes, souvent, il faut essayer d'arrêter de penser comme des humains. La bouche ne produit pas de son, sauf dans un cas assez unique qui est un sphinx. Donc un papillon de nuit produit des sons par expiration. Mais sinon, la modalité la plus commune, c'est le frottement de deux parties l'une contre l'autre. On dit que les insectes stridulent. Et donc, ça peut être les deux ailes, l'une au-dessus de l'autre, c'est le cas notamment des grillons, des sauterelles. Ça peut être l'aile contre une patte, c'est le cas des criquets. Des pièces buccales contre le thorax, des parties du thorax l'une contre l'autre. Voilà, différentes parties peuvent produire des sons.
On a entendu ces bruits, on a entendu ces explications et plus on avance, plus on acquiert des connaissances grâce à vous. Scarabette, quel est d'après vous l'insecte le plus injustement détesté ?
Alors, de mon côté, je trouve qu'on fait beaucoup de généralités sur la mouche. Et on va vraiment les mettre tous dans le même panier en disant que c'est des insectes sales qui vont sur les cadavres, qui vont sur notre nourriture, qui vont nous rapporter des maladies. Or, déjà, il faut savoir qu'il existe des milliers d'espèces différentes de mouches et que toutes ne sont pas nécrophages, ne vont pas se retrouver sur des corps ou des choses comme ça. Et surtout, c'est des grands pollinisateurs. On parle souvent des abeilles, mais les mouches font partie aussi des grands pollinisateurs qui vont aller de fleur en fleur. On les imagine vertes comme celles qu'on peut trouver près des poubelles, mais pas du tout. Il y en a qui sont magnifiques, rayées, qui vont ressembler à des guêpes. On fait beaucoup de généralités sur ce groupe, alors qu'en fait, elles sont très diversifiées et toutes très belles.
Vous auriez dû travailler dans la pub, parce qu'en fait, vous vendez très très bien les insectes. Et moi, je vais vous parler d'une phobie que j'ai, hein, celle des cafards. Écrire ce mot reste même difficile, je peux aujourd'hui le prononcer, enfin bref, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur le cafard qui pourrait me faire l'aimer un peu plus ?
Alors déjà, les cafards, c'est encore une fois un grand groupe avec plein d'espèces différentes. Et on imagine souvent les cafards qui viennent à notre contact. Donc il faut imaginer que c'est une poignée d'espèces sur les milliers qui existent. Et on les imagine forcément marrons, parfois un peu plats, qui s'immiscent un peu partout. Et ça, c'est un peu un cliché qu'on doit enlever parce qu'il y en a aussi qui ressemblent à des coccinelles. Il y en a qui vont ressembler aussi un peu plus à d'autres comme des coléoptères et avoir des tas de couleurs et de formes différentes. Et surtout aussi, il faut se dire que le cafard, il a une place très importante. C'est souvent des détritivores, donc ils vont renouveler la terre, ils vont avoir un grand rôle de recycleur. Et c'est très très intéressant quand on commence à s'intéresser à eux, de voir aussi qu'ils ont tous des comportements très différents. Et ils sont tous quand même très chouettes, quoi.
Bon, ça commence à venir. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans lesquels on les voit différemment ?
Alors, il y a des pays où on les voit différemment parce qu'ils sont très souvent au contact des humains. Et du coup, on est plus habitué à les voir proches de nous. Je pense à des pays comme en Asie, par exemple, où ils sont très, très présents. Et du coup, les gens ont un peu sont habitués à vivre avec eux. Et nous, on a perdu cette idée que les animaux comme les insectes peuvent venir à notre contact et que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel qu'ils soient avec nous. Et donc, oui, si vous viviez en Asie, vous auriez sûrement une autre vision de ces animaux.
Yasmine Ouglis.
Je me suis toujours senti mal à l'aise au milieu d'une foule. Ma mère n'avait jamais de temps à me consacrer. Quand vous êtes l'enfant dans une famille de 5 millions, on ne s'intéresse pratiquement pas à vous. C'est vrai, c'est incroyable.
Grand bien vous fasse.
Et j'ai toujours eu ce sentiment d'abandon qui n'a cessé d'empoisonner ma vie.
Sur France Inter.
On vient d'entendre un extrait du film d'animation Fourmise, sorti en 98. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, on ne s'intéresse pas assez à la condition des insectes vivant en familles nombreuses. Voilà, un petit peu de légèreté, d'humour et de poésie pour aborder cette nouvelle partie. Alors, les insectes, on en a peur ou pas? On peut, en tant qu'adulte, transmettre cette peur à ses enfants. Mais là, on a un témoignage de Sylvain qui est en ligne avec nous. Je crois que pour vous, Sylvain, c'est tout le contraire qui s'est passé. Racontez-nous.
Oui, bonjour à tous, merci pour l'émission. Alors je suis un urbain, mais j'ai habité à la campagne pendant un certain temps avec mes filles, et je leur ai appris à aimer les insectes. Leur maman était vraiment arachnophobe totale, et puis aujourd'hui mes filles peuvent prendre des araignées dans les mains, ça leur pose pas de problème. Voilà, c'est un truc que je leur ai appris à apprendre, et elles aiment bien les observer, et puis quand je vois tout ce que peuvent faire les abeilles pour notre environnement, pour la pollinisation, ben, sont vraiment des êtres vivants ultra importants. À part le moustique, je conseille d'écouter la chanson de Richard Gottener, le moustique, ouais. Qui est vraiment pas marrante. Et puis, par contre, pour valoriser les insectes, je propose aussi de regarder, pour les gens qui ont peur des insectes, de regarder les courts-métrages minuscules qui sont super marrants et voilà, qui amènent une autre image des insectes. Quoi.
Nos trois invités acquiescent. Merci beaucoup, Sylvain, pour votre témoignage. Donc, alors, Sylvain, lui, n'en avait pas peur. Sylvain va vers la connaissance et vers des documentaires pour rassurer sa fille. À moins d'être passionné... comme nos invités, c'est vrai que c'est pas évident de connaître le fonctionnement des insectes entre eux, comment ils s'organisent, comment ils communiquent entre eux. Mathieu Lioro, même quand on n'y connaît pas grand-chose en insectes, on sait tous quand même que les abeilles évoluent dans une société très organisée, avec à leur tête une reine. Vous qui êtes un spécialiste, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, à part ça, leur organisation?
Donc à part ça, donc ce sont des animaux sociaux qui ont un cerveau. Donc chaque abeille a un cerveau comme le nôtre.
Un cerveau comme le nôtre avec deux hémisphères ?
Oui, deux hémisphères, exactement. Alors par contre, il est beaucoup plus petit, il y a beaucoup moins de neurones.
J'imagine.
Mais il y a un cerveau. Ce cerveau, il fonctionne comme le nôtre. C'est-à-dire que les abeilles peuvent percevoir de l'information chimique, visuelle, tactile, traiter cette information, construire des mémoires pour pouvoir avoir un comportement adapté quand il le faudra. Mm-hmm. Donc chaque abeille a la possibilité de prendre des décisions individuellement, chaque abeille a une personnalité, et les abeilles collectivement vont travailler ensemble pour construire un nid, pour défendre le nid, pour aller chercher de la nourriture, pour se protéger des prédateurs, etc. Mmh. Donc on est dans une société qui est fonctionnelle avec des individus abeilles qui apprennent, qui ont une expérience individuelle et qui vont communiquer.
Alors, mais dans l'organisation, j'ai envie de dire, sociale, il y a la reine en haut et toutes les autres abeilles en dessous?
Non, on va les placer au même niveau. Donc,
reine n'est pas plus importante ?
Voilà, ce qu'on appelle la reine, en fait, c'est une femelle, c'est la maman. C'est une femelle qui va être la mère de toutes les autres ouvrières et certains mâles. Et la distinction entre la reine et les ouvrières, c'est que les ouvrières, elles sont stériles.
D'où l'expression la reine-mère, peut-être. Hein. On peut se dire ça. Chez les guêpes, j'ai cru comprendre qu'il existait un rang social. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, les guêpes sociales, donc il existe des guêpes sociales également et des guêpes solitaires, mais chez les guêpes sociales, on va avoir des organisations un peu comme chez les abeilles. Mais j'ai une collègue américaine qui travaille sur une espèce en particulier qu'on trouve au nord des États-Unis. C'est une espèce qui vit en petite colonie où on a plusieurs reines potentielles qui vont former une hiérarchie. Donc on va avoir une reine matriarche qui va dominer toutes les autres. Et elle va pondre des œufs. Et les autres vont devenir des ouvrières stériles, alors qu'elles pourraient se reproduire si elles pouvaient.
J'ai entendu parler aussi de taches sur les guêpes. Est-ce que l'un d'entre vous veut bien me parler de ces taches ? Ok Mathieu, allons-y.
Bon, on est toujours chez la même espèce où il y a cette dominance, ces relations de dominance. Et en fait, les guêpes se reconnaissent individuellement grâce à leur visage. Donc elles ont des masques faciaux avec des taches brunes ou jaunes. Et aucune guêpe n'a le même visage. Et ça leur permet de se reconnaître individuellement et de savoir comment se comporter face à tel ou tel individu. Et donc, si on est dominé, de ne pas se faire taper dessus par la dominante en se comportant mal.
Ce qui est très bien, c'est que là, on perçoit vraiment des images et qu'elles ont des différences entre elles. Scarabette, quand on parle de fourmis, par exemple, on parle de colonies de fourmis. Est-ce qu'elles vivent toujours en bande ?
Alors, je pense que Mathieu saura un peu plus répondre à ces questions.
Ah oui, toutes les fourmis sont sociales. Donc elles vivent toutes en colonie comme les abeilles.
Oui, mais est-ce qu'elles se déplacent toujours en bande ?
Ah non, non. Il y a énormément d'espèces de fourmis. Je ne vais pas vous donner le chiffre exact. Mais voilà, on a tous les modes de vie possibles, mais qui restent sociaux. Donc on a des fourmis qui forment des colonies de plusieurs milliards d'individus, qui forment des longues traînées comme ça. Et puis on a des fourmis qui vivent dans des petites colonies qui vont aller fourrager de manière individuelle. Par exemple, dans le désert du Sahara, on a des fourmis du désert qui vont comme ça à l'exploration, chercher un petit cadavre d'autres insectes pour aller nourrir la colonie, et elles y vont toutes seules.
Est-ce qu'on pourrait s'inspirer de leur mode de fonctionnement en société, nous, les humains ?
Oui, tout à fait, on le fait déjà. Donc, ces animaux sociaux ont une intelligence individuelle, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ils ont également une intelligence collective. Donc, en communiquant, elles peuvent s'échanger des informations et prendre des décisions collectives. Par exemple, les abeilles décident collectivement d'où aller butiner ou où aller fonder une nouvelle colonie. Et en étudiant les règles de cette intelligence collective, on comprend mieux l'intelligence collective humaine. Et puis, on peut en tirer quelques conseils.
Et comment elles communiquent entre elles ?
Alors, les abeilles communiquent, c'est vraiment très chimique, elles ont une centaine de phéromones, donc d'odeurs qui donnent des messages chimiques différents, mais elles peuvent également s'observer, donc c'est visuel, et puis elles peuvent se toucher, c'est aussi tactile.
François Lasserre, s'intéresser aux insectes, c'est d'abord s'émerveiller de la richesse de leur monde, comme on le fait maintenant, et aussi, je crois, se détacher du rôle utilitaire qu'on leur attribue. Quand on veut parler positivement des insectes, on dit « mais hey, grâce aux insectes, il y a des fruits, c'est ça ?»
Oui, c'est vrai. Alors j'ai longtemps dit « oui, ce sont des pollinisateurs, c'est très important, etc. » Mais en fait, c'était en creusant, c'est très important pour qui ? Pour nous, pour avoir des fruits et légumes, alors aussi pour avoir des petites fleurs, des fleurs sauvages, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des personnes qui sont un peu obligées, pour apprécier les autres animaux, de sentir qu'ils sont utiles pour eux. Donc, pour ces personnes-là, pour elles, on peut parler de soi-disant rôle, mais personne n'a distribué de rôle aux animaux en disant « toi, tu feras ça, toi, tu feras ça ». Non, c'est un peu une vision biaisée de l'évolution aussi. Mais c'est vrai que l'utilité que les animaux nous servent, ça peut servir à certaines personnes pour au moins faire un premier pas vers elle. Parce qu'après, d'autres personnes, ça peut tout à fait être juste parce qu'on les trouve beaux. Quand vous faites une grande ou une photo de guêpe en grand plan et que vous l'agrandissez en énorme avec une belle lumière, c'est absolument sublime. Et des personnes peuvent la trouver sublime. Et peu importe que ce soit une guêpe ou autre, quel que soit l'animal qui est en photo, elles vont l'apprécier pour ça. Et donc, dans la multitude des...
Mais du coup, ce serait injuste de ne pas en aimer certains parce qu'ils ne correspondent pas à nos critères de beauté.
Bien sûr, mais comme on est toutes et tous très subjectives, on a nos façons d'avoir des relations avec les autres animaux. Et donc, en éducation à l'environnement, en pédagogie, on essaye de multiplier les approches, justement. Parce qu'il y a des gens qui vont être très techniques, il y a des gens qui vont être très utilitaristes, il y a des gens qui vont être très sur le registre des émotions, qui vont avoir peur, ou qui vont les trouver belles, des personnes qui peuvent faire de la peinture, etc. Donc, on multiplie parce qu'en face de nous, on n'a jamais la même personne. On n'a jamais une personne qui va dire oui. Donc il y a des personnes qui apprécient très bien la théorie. Vous leur dites les guêpes en dehors du nid sont inoffensives, quand elles s'approchent elles vous veulent que... rien du tout d'ailleurs. Ok, ils disent ok, c'est bon.
Mais qu'est-ce qu'elles veulent, pardon, les guêpes ?
Alors quand elles sont en dehors du nid, elles vont chercher de la nourriture pour leur sœur. Et comme ces guêpes communes, si on parle d'elles, sont prédatrices et nécrophages, comme l'a dit Scarabette tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles mangent des cadavres. Souvent, on a encore des cadavres de mammifères ou d'oiseaux dans nos assiettes, et du coup, elles sont attirées par ce cadavre, et elles prennent un petit morceau, et si vous la regardez bien faire, elle part avec. Et en fait, elle part avec, parce qu'elle va faire, elle va nourrir ses sœurs avec. Et le reste du temps, elle chasse des chenilles, des mouches, des punaises, etc. Et elles vont sur les fleurs.
Ce qui l'intéresse, c'est notre assiette, c'est pas nous.
Complètement. Et puis, et d'ailleurs, elle s'intéresse vraiment pas à nous. Ne bouge pas, tu vas l'énerver, c'est complètement faux. Elle se moque complètement de nous. Et la seule chose qu'elle a envie de faire, c'est de prendre ce morceau de cadavre qu'elle a trouvé, qui est une manne pour elle. Ce qui est vrai, Et ce qui est très rare avec les autres insectes, c'est qu'elles rentrent dans notre bulle carrément. C'est-à-dire qu'elles sont complètement culottées. Il y a très peu d'insectes qui viennent aussi proches de nous. Il y a plus de 40 000 espèces d'insectes qui viennent en France. Celles qui s'approchent autant que les guêpes, ça se compte sur les doigts de la main. Et en plus, soi-disant, parfois, elles pourraient piquer. Parce que soi-disant, je dis soi-disant parce que c'est vraiment très très rare. Et du coup, c'est vrai que ça nous stresse.
Alors, quand vous dites que c'est faux de dire « t'énerve pas ou reste calme et elle ne viendra pas », elle s'en fiche de nous. Mais ce qu'on peut peut-être faire, du coup, dans ces cas-là, c'est que si ce qui l'intéresse, c'est notre viande ou ce qu'il y a dans notre assiette, on peut mettre une assiette à côté.
On peut, c'est une des techniques. Alors déjà, se détendre, sachant qu'elle ne vous veut pas, elle vous veut du bien, elle est inoffensive. Vous voyez, il faut absolument mettre des mots positifs, ça c'est dur. Donc déjà, se détendre complètement, même s'il y en a beaucoup, on fait juste un peu attention. Nous, on les enferme sous des verres et on les libère à la fin du repas. Et ce qu'on peut faire, si elle vient chercher tel aliment, on peut le mettre sur le côté de la table, pas à l'autre bout du jardin, parce que du coup, ce ne seront pas les mêmes individus. Mmh. On peut éventuellement faire ça, voilà. Mais surtout, stresser tout le monde en disant elles ne nous veulent rien, elles nous ignorent, puisqu'en fait, quand elles sont loin du nid, elles sont vraiment pas... J'ai même fait des vidéos où je touche des frelons, voire des frelons à pattes jaunes, des frelons d'Europe, je les touche, et je retire le doigt, et jamais aucun frelon ne s'est rebellé. Et c'est pourtant quand même l'ennuyer de ouais, poser un doigt. En dehors du nid, ces insectes sont inoffensifs.
Est-ce qu'on peut trouver ces vidéos quelque part ?
Oui, sur ma chaîne YouTube, par exemple, oui.
Bah, on va faire ça après l'émission. Scarabette, quand on commence à s'intéresser au monde des insectes, on se rend compte qu'ils sont à la base de tout, notamment de la chaîne alimentaire, et ça, tout le monde ne le sait pas. Pouvez-vous nous dire tout ce qui devrait nous rendre reconnaissants envers eux ?
Alors, ce qui nous rend reconnaissants, là, on va revenir sur un sujet très utilitaire par rapport à nous, comme disait François tout à l'heure, mais je prends souvent l'exemple du moustique, que tout le monde déteste souvent. C'est le premier insecte qu'on va me citer comme étant vraiment celui qu'on déteste. Si on prend le moustique, par exemple, lui, il est à la base de la chaîne alimentaire d'énormément d'espèces différentes, que ce soit des oiseaux, des petits mammifères, ou quand il est à l'état de larve, donc dans l'eau, d'autres espèces aquatiques. Eux, ils vont vraiment servir de nourriture à tous ces autres animaux, et s'ils n'étaient plus là, il faudra qu'ils compensent avec d'autres espèces, et ça serait quand même très compliqué. Ensuite, si on veut faire venir des insectes dans son jardin, ça va faire venir d'autres oiseaux, d'autres petits mammifères, des batraciens. Donc, effectivement, les insectes sont vraiment à la base de tout. Et en les faisant revenir dans des espaces, on voit que c'est un effet boule de neige positif.
François Lasserre, vous souhaitez réagir rapidement ?
Oui, et ce qui est complètement dingue, c'est qu'il y a la question à quoi ça sert un moustique ? En fait, on nous pose une question sur à quoi ça sert écologiquement. Mais en fait, les moustiques sont plus utiles écologiquement que les humains et les humaines.
Et tac, voilà, ça, c'est dit.
France Inter, grand bien vous fasse, Yasmine Ouglis.
Alors, on a reçu beaucoup, beaucoup de messages qui réagissent à l'émission. Je vais vous en lire deux. Celui d'Aurélie qui dit « Pour ma part, je cohabite avec les insectes, fourmis, araignées et autres. Je ne les tue jamais. » Il y a aussi un message de Georges qui nous dit « Depuis tout petit, je suis fascinée par les insectes. Aujourd'hui, à 74 ans, je peux encore rester très longtemps devant un trou de grillons en attendant qu'ils ressortent. Depuis ma retraite, j'ai des ruches et c'est un monde fascinant. » Alors, Georges nous dit qu'il a cette curiosité, cette fascination depuis qu'il est tout petit. C'est pas forcément inné, ça peut devenir un acquis, mais pour ça, il faut un peu de pédagogie. C'est ce qui s'est passé pour ces enfants en sortie scolaire qui s'exprimaient pour un reportage diffusé sur Canal+, en juillet 2023.
Regarde le scarabée, là. Lui, il était en train de boire du nectar, là.
Avant, j'avais peur des insectes, mais maintenant, je suis un peu plus libre avec les insectes. En fait, il n'y a pas assez d'attention pour les insectes.
Moi, j'ai trouvé ça.
Vous avez vu, c'est une sauterelle.
Tout ça, c'est bio.
C'est naturel.
C'est naturel.
Oh, elle est trop belle, elle est toute bleue, là.
On a fait des composts naturels dans le sous-bois pour augmenter la faune des insectes. Je leur apprends aussi à faire un inventaire, comme on a fait tout à l'heure. Aller identifier, apprendre à cataloguer et classifier la nature qui les entoure. Le vivant, on ne peut pas l'appréhender si on ne va pas la chercher dans le détail et dans son infinie diversité.
On a vu que pour ces enfants, il y a un avant et un après. François Lasserre, vous êtes vice-président de l'OPI. Est-ce que l'observation des insectes peut être une activité ludique à faire en famille pendant les vacances ?
Ah bah oui, ça je ne peux pas vous dire le contraire. On reçoit beaucoup de monde donc, à la Maison des Insectes. On fait aussi des animations pour les scolaires ou les centres de loisirs. Et c'est vrai que c'est hyper important que les enfants rencontrent des personnes, et c'est pour ça que j'adore le personnage de Scarabette. Une jeune personne, par exemple, adore les insectes. Parce que c'est rare dans, quand même encore dans leur entourage. Mm-hmm. Il y a plutôt toutes ces idées reçues dont on a parlé. Et du coup, d'être en contact avec des personnes qui trouvent ça joli, qui trouvent ça chouette, qui s'y intéressent, bah déjà, en tout cas, les enfants qui ont des velléités mm-hmm. vont pouvoir du coup se dire « Ah ben, en fait, c'est possible », voire jusqu'à devenir entomologiste, pourquoi pas, s'il y a des vocations et des jeunes qui nous écoutent, mais c'est hyper important de leur montrer que c'est possible, en tout cas. Vous voyez, et c'est un métier possible aussi. C'est
ah oui,
tout
oui,
à
de
fait
toute
un métier
façon,
possible.
Ça...
Des personnes comme Mathieu, ça se compte sur les doigts de la main.
Bien sûr, et les vocations sont souvent des passions d'enfants, et ce sont aux parents, en fait, de les encourager. C'est à nous de leur offrir cette possibilité.
Il y a des outils aussi, si je peux me permettre,
ah oui.
Des boîtes loupes. Ça, c'est le cadeau ultime qu'on peut offrir à un enfant. Pouvoir les capturer et les regarder pour après les relâcher, ça, c'est vraiment un outil génial à utiliser.
Il y a aussi, je crois, des applis qui peuvent nous permettre, en tant que parents, si on n'a pas d'association ou de guide proche de chez soi, d'aller pouvoir observer les insectes, non ? Vous en connaissez des applis à nous recommander ?
Oui, alors il y a beaucoup d'applications de sciences participatives. Je pense au Spipol qui va se concentrer sur les insectes pollinisateurs. Mm-hmm. On a aussi Cubes pour la faune du sol et INPN Espèces qui fonctionne un petit peu comme Pokémon Go.
Ah super, c'est un jeu.
C'est un petit jeu vraiment où il y a un classement, on va pouvoir entrer des espèces animales ou végétales dedans et si on a bien réussi à identifier ce qu'on a vu, on gagne des points et il y a même un classement, donc c'est très sympa aussi à faire avec les plus jeunes ou ceux qui sont un petit peu compétitifs comme moi. Mmh. Et si on veut aussi pouvoir découvrir un peu ce qui nous entoure, il y a des outils en intelligence artificielle qui sont très bien, où on prend une photo et ça nous dit quel est l'animal. En tout cas, ça nous donne une première piste pour après aller creuser plus loin.
Oui, ça peut être un petit parcours fléché, se laisser aller en fait au fil dans une balade de forêt et au fil des insectes qu'on va trouver finalement. Vous avez parlé tout à l'heure, François Lasserre, de la maison des insectes. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette maison ?
Alors on y trouve toute l'équipe de l'OPI, l'équipe pédagogique de l'OPI, avec des insectes en présentation. Alors soit à l'intérieur du bâtiment qui est très joli, magnifique, avec une belle muséographie. Et puis tout autour, on est dans un espace naturel sensible. Et les animateurs et les animatrices de l'OPI vous emmènent à la découverte des papillons, des libellules qui sont tout autour. C'est dans une boucle de la Seine, c'est absolument magnifique. Et pour détendre un peu sur les insectes, c'est vrai qu'on est toujours un peu obsédé par c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Et en fait, les insectes sont tellement nombreux, tellement diversifiés que c'est très difficile de savoir à quelle espèce il appartient. Donc on peut se détendre complètement, voire oublier les livres ou les applis, peu importe, mais rencontrer des petits personnages. Et comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, chaque insecte que vous rencontrez est un individu avec sa personnalité, peu importe quelle est son espèce, regardez-le, c'est le gros dodu marron, c'est la grande verte, peu importe. Rencontrez cet animal, ce petit personnage qui est autour de nous, sans forcément lui mettre un nom ou le nom que vous voulez, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué.
Et laisser parler notre imagination même, ça peut être intéressant. Alors je vais quand même vous diffuser le message de Philippe qui me dit « J'ai pas de phobie particulière des insectes, mais une petite guêpe m'a offert mon premier voyage en ambulance aux urgences. J'avoue maintenant avoir une petite inquiétude quand j'en vois une de trop près. » C'est l'été, on cohabite encore plus avec notamment les guêpes. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel des gestes simples pour vivre avec eux là, pendant cette période ? Peut-être vous, Mathieu Lureau.
Oui, donc les guêpes, on l'a dit tout à l'heure, si on est loin du nid, à 10 mètres du nid, si on arrive à identifier la localisation du nid, et qu'on arrive à être assez loin, on a vraiment très très peu de risques d'être piqué. Donc il faut être un peu relax. Effectivement, dans le cas de l'auditeur, beaucoup de gens peuvent être allergiques, et là ça peut être très grave. Donc il faut absolument éviter la piqûre. Être zen peut aider à éviter la piqûre. Sinon, on peut capturer la guêpe quand on la voit dans un verre, la relâcher plus tard. Et si vraiment on a trop peur, ben on fait appel à un particulier qui peut enlever le nid.
Alors Scarabette, je voulais quand même, avant qu'on se quitte, évoquer le fait que vous aimez tellement les insectes que vous avez des insectes de compagnie.
Oui, effectivement. Donc là où en Europe, on a son premier hamster en animal de compagnie ou son lapin, en Asie, c'est une pratique qui est très courante d'avoir un gros coléoptère chez soi. Et c'est une pratique qui vient de plus en plus en Europe. Et effectivement, moi, chez moi, j'ai des animaux de compagnie, mais ce sont des insectes.
Il suffit d'aller faire un tour sur vos réseaux sociaux pour voir que ce sont de bons compagnons de vie. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir partagé votre passion avec nous et de nous avoir donné la chance de voir les petites baies qui nous entourent comme des alliés, comme des êtres qui méritent notre empathie. Et je le dis officiellement, grâce à vous, moi, j'ai progressé et je les vois d'un autre œil. Donc si c'est le cas pour moi, j'imagine que ce sera le cas pour beaucoup de nos auditeurs. Pour ceux qui souhaiteraient poursuivre leur plongée au cœur du monde fascinant des insectes. François Lasserre, je rappelle le titre de votre ouvrage, Facettes fascinantes de belles bêtes, édité chez Tana. Mathieu Liorot, votre livre La planète des insectes, chronique sauvage, est édité chez Marabout. Et je viens de le dire, Scarabette, on vous retrouve sur les réseaux sociaux pour se délecter de vos vidéos. Merci, un grand merci également aux équipes qui m'accompagnent. Maria Pasquet, je vais aller voir l'orthophoniste d'urgence à la réalisation. Maxime Goudard et Alex Olarewajou Otinois à la technique. Jessica Bagic, Lucie Grandet-Lavigne, Noéla Filliol et Elina Garcia à la préparation.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.